C'est la version symphonique de jazz, je pense.
Ça ressemble à ça.
La version originale est plus épeurante.
C'est vrai, mais écoute, on fait de la radio. Ça prenait quelque chose de symphonique. Et donc,
comme on est parti sur la 9e symphonie tantôt.
Exact, le lien se faisait. Sauf que le lien se fait peut-être pas naturellement avec une chronique politique américaine. Voici pourquoi je te ramène, en fait, à l'été 1916, Patrick. En 1916,
Il a fait chaud cet été-là. Là.
En fait, il a fait très chaud pour les résidents du New Jersey. Pourquoi? Parce qu'on a eu un été particulièrement meurtrier. Sur la côte du New Jersey, il y a eu une série d'attaques de requins qui a fait plusieurs victimes, qui a été combinée aussi à une épidémie de polio qu'on avait dans la région. Et en 1916, il y avait une élection présidentielle. Et il y a un tandem de politologues américains, en fait, il y a à peine quelques années, qui ont fait des recherches. Et ce qu'ils ont découvert, attache-toi-dessus, c'est que le président sortant, qui était Woodrow Wilson à ce moment-là, aurait payé un petit peu politiquement, aurait en fait perdu des votes dans les communautés qui étaient collées sur la côte du New Jersey à cause de ça. Autrement dit, les électeurs l'auraient puni pour, en partie, là, les attaques de requins. C'est évidemment, un phénomène dont il n'était absolument pas responsable, mais parce que c'était le président qui était en poste, bien, écoute, on l'a blâmé. Donc, la thèse, évidemment, qui est beaucoup plus large que ça, c'est que les électeurs vont tendre à punir aux urnes les politiciens qui sont en poste pour des problèmes qui ne sont pas toujours entièrement de leur ressort. Et là, évidemment, ça m'amène au coronavirus. Avant même d'aller au coronavirus, je te ramène à un petit peu plus tard que 1916, 2014. On avait des élections, pas présidentielles, mais de mi-mandat à ce moment-là. Et dans les dernières semaines de la campagne, de quoi est-ce qu'on a commencé à parler et parler et parler? Un certain virus qui s'appelait Ebola. Et on le perd de vue. Mais dans les dernières semaines de la campagne de 2014, c'était un des enjeux les plus chauds. Et le jour du vote, dans les sondages qui ont été menés aux urnes, c'était 60 % des Américains qui disaient suivre le dossier de très près.
J'ai aucun souvenir de ça.
Je te jure, tu regarderas ça. Et dans les publicités électorales en 2014, surtout dans les dernières semaines, c'était un des, sinon, le thème principal qui était utilisé par le parti adverse du président. À ce moment-là, c'était Barack Obama qui était président. Et là-dessus aussi, il y a des recherches qui ont été faites après coup, des recherches encore plus récentes, qui ont démontré quoi? Que la crainte psychologique des électeurs vis-à-vis Ebola était corrélée avec une plus forte propension à voter pour le parti adverse du président, pour le parti républicain dans ce moment-là.
Donc, un peu comme la vague d'attaque de 1916, la vague d'attaque de requins, puis l'éclosion de polio, on a puni Obama pour l'Ebola.
Exactement.
Et l'électeur est dur à suivre des fois, Raphaël.
Effectivement. Et pour Donald Trump, qui est maintenant le président en poste, l'électeur peut être un petit peu épeurant présentement parce qu'on se dit, si ça continue comme on est parti avec le coronavirus, ça pourrait, je dis bien, là, coûter cher à Donald Trump parce que là, il n'est pas juste question de santé humaine, il est question d'économie. Là. Aujourd'hui, 1200 points, la chute du Dow Jones à New York, là, juste pour mettre ça en contexte, c'est presque 5 points de pourcentage, c'est la plus grosse chute en une journée de l'histoire. Et quand on prend la chute depuis le début de la semaine, on est en fait dans la pire performance depuis la dernière récession aux États-Unis. C'était laquelle? C'était la fameuse, ce qu'on appelait la fameuse grande récession, là, la pire crise économique et financière depuis la grande dépression de 1929. Donc, sans faire dans les scénarios catastrophiques, c'est pas la première fois qu'on en fait des scénarios alarmistes là, à l'ère Trump, notamment vis-à-vis des tarifs douaniers. Il y a combien de chroniqueurs américains qui avaient dit qu'on s'en allait en récession? Ça ne s'est pas produit. Mais là, il y a des chefs qui appuient les inquiétudes.
Ce que tu dis, c'est que si le passé est garant de l'avenir, Donald Trump pourrait payer un prix si le coronavirus fait beaucoup de malades aux États-Unis.
Beaucoup de malades et beaucoup de dommages économiques au pays. Si les problèmes à la bourse se traduisent éventuellement dans une récession, il la trouvera peut-être pas drôle. Donc, encore une fois, on n'est pas là, on est dans le peut-être. Mais là, c'est pas simplement de la spéculation. Encore une fois, il y a des chiffres à l'appui. Depuis une semaine, écoute, c'est plus de 3000 points qu'on a perdu à la bourse. Là. Il y a quelque chose qui se produit. Donc, ce n'est plus simplement une question de santé humaine. Mais maintenant que tu en parles, parlons de l'aspect purement santé. Parce qu'il y a un autre risque politique pour le président et son équipe là-dedans. C'est de s'être montré peut-être trop rassurant. Là, présentement, heureusement, il n'y a pas de mort aux États-Unis causée par ce virus-là. La réalité, par exemple, c'est qu'on ne sait pas s'il va y en avoir et s'il y en a, combien il va y en avoir. Et d'avoir entendu le président dire que le virus essentiellement était contenu, qu'il n'y avait pas vraiment de risque aux États-Unis, si après coup, les Américains observent de leurs propres yeux exactement le contraire, Mais là, on pourrait être dans un scénario qui est semblable à celui d'autres présidents qui avaient fait peut-être des... Ce n'est pas nécessairement des fausses assurances, mais des assurances qui sont avérées trompeuses.
Comme qui?
Par exemple, le président Bush fils, tu te rappelleras, en 2007-2008, avant justement la dernière récession, avant la pire crise depuis les années 20 et 30, qu'est-ce qu'il était allé dire à plusieurs reprises pour essayer de calmer les marchés, de rassurer la population? Mais Clé, peut-être qu'il y avait des secousses là, qu'on sentait dans l'économie, mais les indicateurs économiques majeurs allaient bien. Évidemment, on a vu exactement le contraire. Autre exemple, Barack Obama. Je ne sais pas si tu te rappelles de celui-là dans son deuxième mandat. Vers le début de son deuxième mandat, quand l'État islamique commençait à percer, là, si on veut, à monter, Obama s'était fait rassurant, avait dit, ou avait essayé de se faire rassurant, avait dit, l'État islamique, c'est juste une gang d'amateurs, c'est des recrues. Ça, c'était avant qu'essentiellement, oui, ils prennent le contrôle partiel de deux pays du Moyen-Orient, l'Irak et la Syrie. Donc, c'est ce genre de risque-là, en plus du risque économique que Donald Trump et son équipe courent présentement, de s'être fait peut-être trop rassurant en n'ayant pas nécessairement tous les faits. Donc, le président, tu l'as vu comme moi hier soir, a annoncé officiellement que son vice-président Mike Pence allait diriger l'effort de l'administration Trump pour ce qui est de la lutte contre le coronavirus, mais jusqu'à quel point l'administration va être capable de le contenir ou non aux États-Unis, c'est une question ouverte.
On souhaite aucun malheur à personne aux États-Unis, mais un système de santé qui fonctionne pour tout le monde, ça peut être utile dans un cas comme ça.
C'est sûr que ça va relancer le débat, on s'entend.
OK, parle-moi de Barack Obama là, qui a fait une incursion dans la course présidentielle pour demander de ne pas être dans la course présidentielle.
Écoute, as-tu déjà vu un président si peu présent dans la course, essentiellement pas nécessairement pour lui succéder de façon directe, mais c'est un petit peu ça. Parce que si on avait un candidat démocrate qui devait devenir président, ben ça serait le président démocrate qui succéderait évidemment à Barack Obama. Et là, il y a une publicité qui a été lancée par un groupe appuyant Donald Trump dans la primaire démocrate de la Caroline du Sud qui a lieu samedi. Dans la pub en question, on entend la voix de Barack Obama. On en écoute d'ailleurs un petit extrait. Je te mets le contexte après coup.
Plantation politics. Black people in the worst jobs. The worst housing. Police brutality rampant.
Donc, on entend Obama qui décrit les conditions difficiles qui étaient connues par les Afro-Américains, de la pauvreté, de la brutalité policière, etc. Et on montre à l'écran en même temps des images de Joe Biden, son ex-vice-président, en établissant un lien entre ça, donc les conditions de vie difficiles des Afro-Américains, et certaines des mesures que Biden a soutenues dans sa carrière. Le petit hic, la voix d'Obama a rien à voir avec Joe Biden. Ça vient en fait de la narration de son premier livre qui avait été publié en 1995. Ça, c'est 10 ans, plus de 10 ans avant qu'il soit élu.
Raphaël, faut dire qu'aux États-Unis, les campagnes publicitaires politiques comme ça sont réputées pour être foncièrement malhonnêtes des deux bords.
Et sais-tu quoi? Il n'y a presque aucune règle qui ne les régit. Et donc, tout ce que Barack Obama a pu faire, a essayé de faire aujourd'hui, c'est de sortir publiquement en demandant aux stations de télévision de la Caroline du Sud de cesser d'accepter de diffuser en fait ces pubs-là. Mais ces dernières sont entièrement libres d'accepter ou non la demande du président ou de l'ex-président.
Oui, et dans un contexte où les revenus publicitaires baissent,
voilà, c'est
ça peut être tentant de dire oui. Merci Raphaël, on va te retrouver demain.
À demain.
Après la pause, nos collaborateurs Luc Ferrandez, Pierre-Yves McSween, les accros, Richard et Thérèse vont être là. Et on va faire le point sur les négociations entre le gouvernement fédéral et la communauté Wet'suwet'en.